Ce soir dans la Rendez-vous toujours plein feu sur la littérature du Congo RDC avec Yannick Mediaka, membre d'Elengo. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu es jeune de l'association congolaise dont les activités visent à promouvoir la culture congolaise en Suisse. On vous a déjà reçu plusieurs fois ici sur les ondes de Radio Django. Alors Yannick Mediaka, vous avez grandi au Congo et êtes arrivé en Europe à 15 ans. Jeune adulte, vous développez un goût certain pour la littérature africaine, surtout congolaise. Comment s'est développée cette passion ?
En fait, moi j'ai déjà... Au Congo, j'ai eu la chance de tomber sur un prof de français qui était lui-même auteur, poète, qui m'a un peu donné ce goût de la littérature. Puis j'avais un peu perdu, c'est là. Et puis en arrivant ici, j'ai vu qu'il y avait des possibilités, il y avait des moyens de faire des recherches. Et puis il y avait une sorte de nostalgie aussi, et puis un besoin de renouer aussi avec les racines.
Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour vous ?
Oui, c'est très très important, oui.
Pour quelle raison la littérature du Congo-Kinshasa est-elle si longtemps restée méconnue en dehors des frontières nationales ?
Alors, il faut dire qu'il y a eu la censure hein, dès le début déjà de la littérature du Congo. Donc, la censure sous l'ère coloniale. Donc, pendant la colonisation, il y avait un réel besoin. Enfin, il y avait une volonté politique de la part de l'administration coloniale belge d'isoler un peu le Congo et puis d'isoler tout ce qui se faisait en matière de culture, tout ça. Donc... Et puis il y a eu aussi un deuxième temps en fait sous l'ère de la dictature de Mobutu. Donc plusieurs choix politiques qui ont fait que ça isolait encore plus le pays et donc cette littérature.
Et c'est à l'époque où en fait il y a eu ce phénomène d'authenticité.
Oui, exactement.
Où en fait on a muselé la presse, la télévision,
exactement,
et la radio.
Exactement.
Et il semblerait aussi qu'il y ait eu un événement majeur autour des maisons d'édition.
Oui, les maisons d'édition, oui, parce que les choix, c'est justement ces choix politiques qui ont mené le pays un peu au bord du gouffre, a fait que
les canaux de diffusion
ont été très très marqués par cette crise, justement la crise due à cet état au bord du gouffre. Il y a aussi le système scolaire hein, qui a été laissé à l'abandon, ce qui a fait que il y avait pas de politique pour encourager la lecture, tout ça, les diffusions, enfin la diffusion des livres, tout ça, donc voilà.
Et il semblerait aussi que les écrivains et les éditeurs, en fait, payaient des taxes énormes.
Exactement, ouais.
Et qu'il y avait certaines conditions, effectivement, qui n'étaient pas aisées, et que ce n'était pas du tout encouragé, et il semblerait qu'il y avait un gros problème aussi au niveau des livres proposés dans les écoles. C'est-à-dire
oui.
qu'on se limitait, en fait, à un certain lectorat, et on écartait tous les autres.
Exactement.
Et pourtant, la production littéraire du Congo-Kinshasa demeure d'une grande richesse et d'une grande diversité, comme l'atteste le monument de Sylvia Riva, Nouvelle histoire de la littérature du Congo-Kinshasa. À quelle période se situe le passage de la tradition orale à l'écriture ?
Alors, je crois que ça se situe au début du XXe siècle. Hein. Au début du XXe siècle, donc, il y a eu des auteurs clés qui ont justement marqué ce passage de l'oralité à l'écrit.
Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'aînée Marianne et qui était-elle ?
Alors, Nelly Marianne, c'était une poétesse qui était justement connue pour avoir écrit des poèmes très très engagés, disons, qui dénonçaient justement ces systèmes coloniaux assez discriminatoires envers ce qu'on appelait à l'époque les indigènes. Donc, voilà.
Et ce qu'on a appelé par la suite les évolués.
Les évolués.
Ce serait intéressant que vous puissiez nous expliquer qui étaient les évolués.
En fait, les évolués, c'était un peu un terme péjoratif pour désigner ces...
Les intellectuels.
Les intellectuels, voilà. Une sorte d'élite, quoi, qu'on a voulu créer. Une élite qu'on a mis un peu dans l'administration, qu'on a formée comme ça. Donc, on les appelait les évolués.
Aussi les longs crayons.
Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce terme. Plutôt évolué, mais les gens, non, j'ai pas...
Il semblerait, pour revenir en fait à l'histoire de ces grands écrivains donc, qui ont marqué les débuts de la littérature au Congo, que Nelly Marianne a été une précurseur par rapport au mouvement de la négritude, qui a commencé dans les années 30 en fait en Afrique francophone, mais elle a quand même devancé l'Afrique de l'Ouest, déjà dans les années 25, je crois.
Oui. On a retrouvé des poèmes à
des
elle.
Des traces.
Ouais, des traces justement qui parlaient justement des poèmes qui étaient très très engagés pour l'époque. Donc,
pourriez-vous nous expliquer ce que c'est que le mouvement de la négritude ?
Bon, c'était un mouvement qui a été lancé, je crois, en France par Léopold Sédar Senghor et puis Aimé Césaire. Il y avait Léon Gontradamas aussi. Donc, en France, c'est un mouvement c'est une façon de se revendiquer justement. Le fait d'être.
La négritude.
Ouais.
Mais qu'est-ce qu'on entend par négritude en fait? C'était une manière de s'opposer à la colonisation.
Oui, c'était un mouvement clairement anticolonialiste.
Ouais. C'est un outil de résistance et de revendication. Et dans quelle mesure les auteurs congolais, à partir des années 40, en fait, ont suivi ce moment? Parce que ça a mis du temps à s'installer au Congo à cause de la colonisation. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les auteurs qui se sont penchés en fait sur ce genre littéraire?
Alors, il y a eu, bon, justement, vous avez cité Nelly Marien, Kaosé, j'ai pas eu beaucoup d'ouvrages, justement, mais il y a eu des auteurs comme Antoine Roger Bolamba et puis.
D'autres auteurs.
Ça va me revenir, oui.
Parce que la littérature est plutôt riche, contrairement en fait à ce qu'on pouvait méconnaître à l'étranger. Mais si on regarde en fait l'évolution de la littérature du Congo-Kinshasa, après les indépendances, c'est une littérature qui est restée très stratifiée. Trois périodes en fait se succèdent, des années en fait 60-70 aux années 80-90. Et dans quelle langue finalement ont écrit les écrivains congolais à partir en fait des années 70?
Alors des années 70, donc ils ont écrit beaucoup en français, parce que juste après l'indépendance, on a privilégier beaucoup le français à l'école. Hein. Donc, c'était vraiment devenu la langue de l'enseignement par excellence. Donc, on a senti un peu une frilosité de la part des écrivains, donc d'écrire dans les langues locales. Donc, ils ont plus privilégié le français donc, dans les publications. Donc, voilà, ça, c'est un peu le paradoxe congolais, quoi, parce qu'on a quand même le français qui est une langue du pouvoir, de la connaissance. Puis de l'autre, quand même, c'est une langue qui est très peu utilisée. Donc, c'est pas une langue populaire. Donc,
Mais à votre avis, pourquoi est-ce que les premiers écrivains qui se situent entre les années 60 et 80 ont choisi d'écrire en français, alors qu'à plutôt à partir des années 90, on a justement différents écrivains qui ont décidé d'écrire dans d'autres langues, comme le Kiswahili ou le Chiluba ou le Kikongo? S'explique en fait
Je pense que je crois que c'était bien vu d'écrire en français, c'est-à-dire, ça faisait intellectuel. Il y avait pas une honte, mais c'était très bien vu d'écrire en français. Donc, voilà.
Certains auteurs parlent en fait de sous-culture coloniale, mais heureusement c'est vivement contesté aujourd'hui, je crois, avec les nouveaux écrivains. Et dans quelle mesure pourrait-on dire finalement que la littérature en fait participe à la construction d'une nation?
Parce que la littérature, elle peut justement, ça peut être un outil didactique, puis des prises de conscience aussi.
De prise de conscience. Ouais. Et en parlant de prise de conscience, on sait que beaucoup d'auteurs, en fait, ont décidé de s'exiler. Et on parle de littérature de l'exil.